Mais c'est ça, je voulais vous le signaler. Et ce matin, Gilles m'a parlé il y a quelques semaines et il m'a dit, tu avais commencé il y a un certain temps le credo apostolique, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Mais ça n'arrête pas là. Et il dit, ça serait intéressant que tu continues. J'ai dit, bien sûr, ça va me faire plaisir de continuer. Et je voudrais préciser que le credo apostolique, ce n'est pas biblique. Wow, commence sa prédication en disant, m'a parlé sur quelque chose qui n'est pas biblique. C'est pas biblique dans le sens que c'est pas inspiré de Dieu. Mais le credo apostolique résume la foi apostolique et l'enseignement apostolique. Donc, c'est pas biblique dans le sens que c'est pas inspiré, hein? On peut pas dire c'est selon l'inspiration du Saint-Esprit, mais c'est l'essence de l'enseignement. Évidemment, on croit plus que ce qui est écrit dans le credo, mais on peut pas croire moins que ce qui est écrit dans le credo. Et c'est pas une prière, en passant. Je parlais avec Lucie tantôt, qui me disait qu'on l'a tous pas mal appris, hein, parce que je regarde à peu près les anges qu'on est, et on a tous pas mal appris ça à l'école, le credo apostolique, avec d'autres prières, et on a tendance à penser que c'est une prière catholique. Mais c'est pas une prière catholique. Et ça n'a pas été composé non plus par les apôtres. Il y a une pensée qui dit qu'il y a les 12 apôtres ont composé chacune strophe du credo apostolique. C'est pas vrai, ça. Le credo apostolique a commencé au début de l'ère chrétienne et a varié un peu jusque dans les années 400 pour s'ajuster aux hérésies, aux erreurs. Le credo proclame la vérité et réfute les erreurs. Et on va voir qu'au fil et à mesure qu'on va avancer dans le credo, que les erreurs du premier siècle sont exactement les mêmes qu'aujourd'hui. Et ce n'est pas tellement surprenant parce que les gens qui promulguaient les erreurs, en fait, ils étaient motivés par l'ennemi, hein, le prince de ce monde, qui est encore le prince de ce monde jusqu'au retour de Jésus-Christ. Et il n'a pas changé. Il y a encore les mêmes ruses, il y a encore les mêmes erreurs, il essaie de faire croire les mêmes hérésies. Et je vous assure qu'il réussit très bien, particulièrement ici au Québec, où la foi, et je peux comprendre dans une mesure qu'avec toutes sortes de croyances culturelles qui s'ajoutent, qu'on veut mettre des balises, mais la foi chrétienne est relayée en dessous des tapis. On veut l'enlever. Donc, c'est dans ce sens-là que je dis qu'il réussit très bien, particulièrement ici au Québec, mieux qu'ailleurs. Mais nous, on veut s'attacher, on veut se relier. En fait, le credo nous relie parce que c'est une confession ou une profession? C'est les deux. Il y a une différence entre les deux. Une confession, vous en avez une, j'ai regardé sur votre site, ce que nous croyons. La confession de foi, c'est le contenu du texte. La profession de foi, c'est ce que nous, on professe, c'est quand on l'atteste publiquement, collectivement ou individuellement, quand on vient rendre témoignage, que ce soit au travail, dans la famille, avec les voisins, qu'on dit qu'on est croyant, ça c'est la profession de foi. Donc, le credo est les deux, une profession et une confession, et historiquement, les gens qui s'approchaient d'une rivière pour se faire baptiser, vous savez, comme aujourd'hui d'ailleurs, hein? Si quelqu'un arrive ici et dit « je voudrais me faire baptiser », vous n'allez pas dire « ok, good, yeah, vas-y ». Non, on va s'informer un peu avant, on va prendre « es-tu vraiment un croyant? Es-tu né de nouveau? Est-ce que tu as expérimenté la nouvelle naissance? et on va s'informer, et suite à ça, on va le baptiser. C'était pareil au premier siècle. Et les premiers chrétiens apprenaient par cœur le credo apostolique. Et quand ils se faisaient baptiser, ils récitaient le credo, je crois en Dieu, et ils récitaient le credo d'une façon publique. Et en faisant ça, mettaient leur vie en danger. Parce que, évidemment, il y a des mots dans ça qui sont, le mot Seigneur qu'on va voir ce matin, il y a des mots dans ça qui vont irriter le pouvoir romain. Et mettons que c'était pas culturellement inclusif dans ce temps-là, c'était plus exclusif. Tu crois ce qu'on croit ou t'es out. Et c'est ce qui arrivait. Donc, c'est un lien entre nous, aujourd'hui, en 2025, et les croyants du premier siècle, des années 30, 34 et après, hein, les premiers croyants. Mais j'ai un texte pour vous ce matin, j'ai plusieurs textes, mais je commence avec un texte dans Matthieu 16 et au verset 13. Donc, Matthieu 16, verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, de Philippe, demanda à ses disciples, Qui suis-je au dire des hommes, moi, le Fils de l'homme? Qui suis-je au dire des hommes? Qu'est-ce que les hommes disent que je suis? Est-ce que vous avez la bonne réponse sur celui que je suis? Est-ce que vous savez vraiment qui je suis? Peut-être les disciples en avaient une meilleure idée qu'au dire des hommes, qui est beaucoup plus général. Mais le Seigneur se questionne, ça ne veut pas dire qu'il ne connaît pas la réponse. Mais il se questionne et il veut que les disciples se questionnent sur qui suis-je. Ils répondirent, les uns dirent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et là, bon, c'est bien beau, là, qu'est-ce que tout le monde dit, qu'est-ce que tout le monde pense, mais là, le Seigneur va être direct. Et je ne suis pas direct avec vous. Le texte l'est. Le texte est direct avec vous. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Je ne vous connais pas tous. Je vois vos visages régulièrement, pour la plupart. Mais le texte dit, et vous, personnellement, qui dites-vous que je suis? Est-ce que vous avez personnellement la bonne réponse à cette question-là? C'est la question, en fait, c'est la réponse la plus importante à laquelle que vous allez pouvoir donner. Si vous n'avez pas la juste réponse à cette question-là, le ciel est fermé. N'y a pas de zone grise. Le ciel est ouvert à ceux qui ont la réponse. Le ciel est fermé à ceux qui n'ont pas la réponse. Et vous, qui dites-vous que je suis? Et Pierre répondit, Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Voilà, il y avait la bonne réponse. Et plus tard, on verra que ce n'était pas juste une connaissance, c'est-à-dire que ce n'était pas juste cognitif, mais il vivait cette réalité-là dans son cœur. Donc, le credo apostolique continue après Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, avec, j'ai quasiment envie de dire, Lucie, tu veux-tu nous le dire? Mais je ne ferai pas ça, là, mais elle me l'a dit qu'elle savait par cœur. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu par le Saint-Esprit est né de la Vierge Marie. Ça dit plus que ça en ce qui concerne le Seigneur, mais on va arrêter là pour aujourd'hui. L'ange avait dit à Marie, « Tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » C'est la plus longue partie du credo, le Seigneur Jésus. Ce que les chrétiens devaient connaître et se souvenir, parce que, vous savez, dans ce temps-là, on ne pouvait pas dire « Allez à la publication chrétienne, achetez-vous des livres. » Ça n'existait pas. Les livres, ça n'existait pas. Il y avait à peine quelques copies. Même Paul, quand il écrit aux églises, il dit que cette lettre-là soit lue dans l'autre église et lisez-la. Il n'a pas dit « Je vais envoyer des copies à tout le monde. » Ça n'existait pas. Donc, les gens devaient se souvenir, comme les cantiques, comme les cantiques. Les cantiques, à l'origine, existaient pas pour être ésotériques, vous savez, puis faire des vagues dans l'église, on se lève, on fait... C'était pas ça. C'était pour enseigner la théologie. Les cantiques existaient pour enseigner la théologie aux croyants. Et c'est pour ça que les vieux cantiques ont beaucoup plus de richesse théologique. Mais là, c'est une opinion personnelle. Hein? Vous pouvez être pas d'accord, là, puis je vous aime quand même. Ont beaucoup plus de richesse théologique que certains nouveaux cantiques qui disent toujours la même chose. Puis au bout de 5 fois qu'on le dit, on se demande c'est quoi que ça veut dire. On comprend pas trop. Mais en tout cas, les gens apprenaient le credo et ils le récitaient. Et la plus longue partie est sur Jésus-Christ entre le Père et le Saint-Esprit, qu'on va voir plus loin, et ça continue après le Saint-Esprit. Mais la partie principale, le cœur du credo, c'est sur la personne de Jésus-Christ. Et le credo dit « Je crois en Jésus-Christ ». Tacite, qui est un historien du 1er siècle, un sénateur romain aussi, atteste dans ses annales, il a écrit ça, ça existe encore, c'est vérifiable. Christus a été soumis à la peine extrême sous le règne de Tibère aux mains de l'un de nos proconsuls, Ponce Pilate. Tacite, qui est un vrai monsieur, qui a existé, qui a écrit des vraies affaires, atteste ça, que Jésus-Christ a été soumis à la peine extrême. C'est intéressant qu'ils disent à la peine extrême. La croix, nous, on a tant, en tout cas, on va dire moi, là. Vous savez, on a grandi avec des crucifix un petit peu partout, ces murs, dans les écoles, et puis... ça fait partie de notre culture. Hein? Même des fois, il y avait des pendatifs avec une petite croix. Puis, mais c'est un supplice épouvantable qu'était la croix. C'était la peine extrême. Extrême! Les Romains, aucun Romain n'était soumis à la crucifixion. Les prisonniers, les rois, quand ils ont écrit que Christ est le roi des Juifs, c'était ironique, parce que s'ils avaient cru qu'il était roi, ils ne l'auraient jamais crucifié. Ils l'auraient exécuté d'une autre façon. C'était une peine extrêmement sauvage, extrême. Mais en tout cas, je ne veux pas m'éloigner, là, mais quand on dit « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant », on a parlé là, de « je crois hein, », qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut plus que dire « je sais que ça existe ». Je ne peux pas prouver, si quelqu'un me demande « est-ce que tu peux prouver de façon objective, irréfutable que Dieu existe? » La réponse, c'est non. Je ne peux pas faire ça. Je le crois, ça, c'est ma vie, ça fait partie intrinsèque de moi, mais je ne peux pas le prouver. Quand on arrive à Jésus-Christ, c'est autre chose. Est-ce que tu peux prouver que Jésus-Christ a vécu? Oui. La réponse, c'est oui. Jésus-Christ a réellement vécu sur cette terre. Pensez à ça, là, cet homme-là, Jésus-Christ, on l'appelle cet homme, Dieu, a divisé l'histoire de l'humanité en deux. On dit qu'aujourd'hui, on est en 2025, après Jésus-Christ. Et c'est pas juste à l'église de Sainte-Marie qu'on dit ça, là. On dit ça en Chine, on dit ça partout dans le monde. Quoique en Chine, ils ont un autre... en tout cas, ils ont un autre calendrier, les Chinois, là. Ça m'a joué des tours, des fois, avec mes commandes de livres, ça, mais... on est en 2025, après Jésus-Christ, AD, Anno Domini, l'année du Seigneur. Et quand on parle de Jules César qui a vécu, on dit l'année, BC, Before Christ. Cet homme-là a divisé l'histoire du monde en deux. Donc, c'est pas difficile de croire que cet homme-là a réellement existé. Mais quand, comme croyant, on affirme « je crois en Jésus-Christ », on n'est pas en train de dire « je crois qu'il a déjà existé ». Ça, n'importe qui peut dire ça. C'est beaucoup plus que ça. On est en train de dire qu'on met notre foi en Jésus-Christ. On croit ce qu'il a dit qu'il était. Qui dites-vous que je suis? Il l'a dit qui il était. Et soit que c'était un menteur tout qu'un fraudeur, hein? Soit que c'était un fou là, qui pensait qu'il était Dieu, ou soit qu'il était ce qu'il a dit qu'il était. Et il était ce qu'il a dit qu'il était Dieu. Paul le dira d'une autre façon dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 2 et au verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. C'est tout le monde, ça, là. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Il est au-dessus de tout. Il y a un chant qui dit ça, hein? Au-dessus de... Vous ne chanterez pas, là, parce que je veux vous rester jusqu'à la fin. Mais il y a un chant qui dit ça, au-dessus de tout. Et il est réellement au-dessus de toute chose. On dit, je crois en Jésus-Christ. Christ, c'est le terme grec pour le Messie en hébreu. En hébreu, c'était le Messie. En français, c'est... Pas en français, en grec, c'est Christ. On a chanté, d'ailleurs, en commençant, le 118, « Jésus-Christ est vivant ». Et c'est pas un nom composé. C'est pas comme Jean-Paul ou René Charles ou je ne sais pas quoi. Jésus le Christ. C'est ça qu'on devrait dire. Jésus le Christ, le Messie. On est en train d'affirmer que notre foi a un lien avec le judaïsme, le Messie. Sauf qu'eux l'attendent encore. Ils attendent encore le Messie. Nous, en affirmant Jésus-Christ, ou les croyants du premier siècle, en disant Jésus-Christ, ils affirmaient tout le poids théologique du mot Messie, loin, hein, dans Psaume 2, par exemple. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils entre eux contre l'Éternel, contre son oint? Daniel 9, 25, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin. Acte 10, 38, c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Vous savez comment Dieu a oint de Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Donc, on reconnaît en Jésus-Christ tout le poids théologique du Messie, de ce qu'il est l'envoyé de Dieu, l'élu de Dieu, celui que Dieu a choisi pour accomplir les promesses faites à Israël, pour accomplir le salut. Et loin, il y avait trois catégories de personnes qui étaient oint. Oint, hein, vous savez, ça veut dire verser de l'huile dessus. Ça devait être beau. Verser de l'huile, ses cheveux. Trois catégories de personnes qui étaient oint. Et le Seigneur remplit parfaitement les trois catégories. Il y avait les prophètes. Et un prophète, on a tendance des fois à penser que c'est quelqu'un qui annonce l'avenir. Prophète, il annonce l'avenir. Tu sais, c'est pas ça un prophète. Oui, il y avait cette partie-là parce qu'il parlait de la part de Dieu, mais c'était d'abord quelqu'un qui parlait de la part de Dieu, justement. Hébreux 1 et au verset 1, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, donc vous voyez, c'est pas juste annoncer des choses à venir, mais c'est de parler de la part d'eux. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Littéralement, on devrait lire, Dieu nous a parlé en Fils. Il était Dieu. Dieu, quand le Seigneur parlait, il parlait de la part du Père. Dieu a parlé en Fils au travers du Seigneur Jésus. Et nous, comme croyants, et eux, les croyants du premier siècle, avons besoin d'un prophète, avons besoin de quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Évidemment, on a la sainte parole de Dieu qui nous parle. Mais il a accompli ce rôle de prophète. Il y avait aussi les prêtres qui étaient oints, ceux qui faisaient le service dans le temple. Je fais une petite parenthèse parce que vous avez dit tantôt que vous allez étudier « Je suis la lumière ». Je suis la lumière. Quand le Seigneur a dit ça, puis là je fais une parenthèse, je fais ça vite. Quand le Seigneur a dit ça, il est dans le temple. C'est le soir. Pendant la fête, il y a des lampes qui éclairent pour rappeler au peuple d'Israël que Dieu les a éclairés dans le désert, que Dieu les a guidés dans le désert la nuit avec une flamme de feu et le jour de la fumée. Et les Juifs comprennent que les chandeliers sont l'image de la direction de Dieu. Et le Seigneur s'en va dire, « Je suis la lumière. » Ils ont compris ce qu'il voulait dire, là. Ils s'associent à la direction de Dieu. Ils s'associent à Dieu lui-même. Vous allez voir ce qui se passe par après. Ils n'ont pas aimé ça, mais ils ont compris ce qui se passait. Bon, ferme la parenthèse. Donc, il est prêtre et on a besoin d'un prêtre. On a besoin de quelqu'un qui va s'occuper de nous présenter, parce que c'était ça le rôle d'un prêtre, hein, de présenter les offrandes pour que la personne qui apportait l'offrande soit justifiée devant Dieu. Il est à la fois le prêtre et l'offrande. Il est les deux. Mais on a besoin de ce prêtre-là. Et il a un sacerdoce qui est non transmissible. Il n'y a personne qui peut s'approprier le même titre que Jésus-Christ au niveau du prêtre. Et il y avait aussi finalement les rois qui étaient oints. Et le Seigneur a été roi. Hein? Hein? Je l'ai dit tantôt, on a écrit, il est le roi des Juifs. C'était vrai. C'était ironique, mais c'était vrai. Et dans le texte que notre frère nous a lu dans l'Apocalypse, il est le roi des rois. On l'a chanté aussi. Il y avait à Saint-Jean, on ne fait plus maintenant, là. Après le culte, on amenait tous les enfants en avant et on demandait, y a-t-il un cantique que vous aimeriez chanter? Et il y a un petit gars, Joseph. Joseph, lui, je ne sais pas s'il savait pas là, qu'il n'y a pas d'autre cantique que le roi des rois, là. Mais Joseph, il demandait toujours ce cantique-là. Roi des rois, Seigneur du Seigneur, roi des rois, Seigneur du Seigneur. Puis on chantait roi des rois, Seigneur du Seigneur. Mais c'est une vérité. Il est le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Son Fils unique, Jésus-Christ, son Fils unique. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Une relation unique. Jean 6, 27, c'est lui que Dieu le Père a marqué de son sceau. Le sceau garantissait l'origine. S'il y avait le sceau de César, même au Moyen Âge, hein, c'était encore comme ça, les rois mettaient un sceau dans de la cire pour authentifier que ça venait d'eux autres. Ce n'était pas un faux. Et évidemment, si le sceau est ouvert, on sait que la personne n'a pas respecté l'entente. Il a ouvert, ça ne s'adresse pas à moi, je l'ouvre. Mais quand Jean dit que le Père a marqué de son sceau, il garantit la provenance, il garantit la qualité, il garantit la propriété, le Fils unique. Genèse 22, vous connaissez évidemment hein, l'histoire d'Isaac et Abraham. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, va-t'en. Et offre-le en holocauste. Est-ce que c'est possible que Dieu, le Père, a laissé Dieu, le Fils, s'offrir en sacrifice à la croix pour mes péchés? La réponse est oui. Et quand le Seigneur dit, « Et vous qui dites-vous que je suis? » Ça fait partie de la réflexion avant de donner la réponse. Que lui, oui, il s'est donné en sacrifice. Est-ce que c'est possible que Dieu a vécu ces moments-là aussi? Dieu le Père a vécu ce qu'Abraham a pu penser, mais dans l'Épître aux Hébreux, ça nous est dit qu'Abraham croyait à la résurrection. Lui, il s'en allait offrir son fils. Je ne suis pas en train de dire que... C'était comme rien, là. Mais il croyait à la résurrection. Il avait tellement confiance en Dieu qu'il croyait à la résurrection. Il croyait que s'il offrait Isaac, Isaac allait éventuellement ressusciter. Dieu n'a pas permis que ça se fasse. Dieu aurait pu faire ça. Parce qu'il y a des gens qui sont ressuscités. Le fils de la veuve de Naïn. Il y en a d'autres que le Seigneur a ressuscité. Dieu aurait pu ressusciter Isaac. Mais est-ce que ça se peut que le cœur de Dieu a été brisé? Parce que non seulement sa main ne s'est pas arrêtée, mais on s'est moqué du Fils. Et on a... Ils ont été même, on va dire, baveux avec Dieu lui-même. Dans l'Évangile de Matthieu, il était sur la croix. Je vous ai dit tantôt, c'était la peine capitale la plus horrible à souffrir, qui durait des jours. Ça pouvait durer des jours. C'est pour ça qu'ils ont voulu casser les genoux du... Vous savez comment un crucifié mourait? Asphyxié. hein, parce qu'il n'était plus capable de se relever. Et quand il se relevait, il déchirait ses pieds. Et là, le Seigneur est sur la croix, le peuple est autour, comme des vautours, et il dit, il s'est confié en Dieu. Là, ils sont en train de provoquer Dieu. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit, je suis fils de Dieu. Effectivement, il est fils de Dieu. Effectivement, il a dit ça. Mais là, le peuple est en train de mettre le cœur du Père à l'épreuve. C'est pas juste le fils qui a été éprouvé, mais le Père aussi. Moi, je vous garantis qu'une chance que je ne suis pas Dieu, parce que ça aurait arrêté là. Hein? J'ai déjà raconté l'histoire de mon fils au hockey. Oui, mais je pense encore, tu sais, puis... En tout cas, mais Dieu s'est retenu. Que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. Écoute, si je ne le délivre pas, ils vont penser que je ne l'aime pas. Puis si je le délivre, ben c'est le plan du salut qui vient de s'effondrer. Donc le Père a laissé le Fils non seulement souffrir, mais a laissé les gens douter de son amour pour le Fils. Lui, son Fils unique. Jésus n'était pas le fils d'un dieu, comme les légendes disaient qu'Hercule était le fils, Hercule qui n'a jamais existé en passant, qui était le fils d'un dieu grec ou un demi-fils, je ne sais plus, là. Mais le Seigneur était le fils de Dieu, Dieu lui-même. Il y a un petit épisode dans l'Évangile de Jean, au chapitre 16, « Je suis le chemin. » Vous allez étudier ça aussi, j'imagine. Chapitre 16, verset 6. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » En passant, « Nul ne vient au Père que par moi. » Nul, c'est un universel négatif. Ça veut dire que ça s'applique à tout le monde de façon négative. Il n'y a personne qui vient à Dieu d'une autre façon que par moi. N'essayez pas de trouver une autre façon, là. Il n'y a pas. Dans Acte aussi, c'est Acte 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre. La Bible est claire et simple. Bon, je continue. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Montre-nous le Père. Montre-nous ça, là, Seigneur. Montre-nous le Père, puis ça va être correct. On va en avoir assez. Et la réponse du Seigneur, il dit, Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Et au verset 11, « Croyez en moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. » Il est non seulement le Fils de Dieu, il est Dieu lui-même. Et il n'y a pas de façon plus simple ou plus claire ou plus directe de le révéler à Philippe. « Montre-nous le Père, Seigneur. Hey, il y a si longtemps que j'étais avec vous autres, tu ne m'as pas connu. » Il aurait pu dire autrement, il aurait pu dire, tu n'as pas vu que j'essayais de le représenter. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit, il y a si longtemps que je suis là que tu ne m'as pas vu, mystère de la Trinité, que je ne suis pas capable d'expliquer. Si j'étais capable d'expliquer, je serais riche. J'aurais écrit un livre, puis ça serait vendu des millions de copies, mais c'est un mystère. C'est un mot qui n'est pas dans la Bible. Mais l'idée, le principe, est dans la Bible. Millennium, c'est pas dans la Bible, mais le principe est dans la Bible. Et là, le credo continue en disant, notre Seigneur, Fils unique, c'est la relation du Seigneur avec le Père. Notre Seigneur, c'est la relation du Seigneur avec nous. Et le croyant du premier siècle disait « Notre Seigneur, Kurios ». Kurios qui est employé de quatre façons dans le Nouveau Testament. Je vous le dis rapidement. Propriété absolue. Propriété absolue. Le Seigneur, et c'est un mot commun, pas nécessairement juste Seigneur Jésus, mais le Seigneur ou le Kurios possédait ses esclaves. De la même façon, j'ai une voiture, je possède ma voiture, elle est à moi. Je peux faire ce que je veux. Si j'ai envie de graffiner, je peux faire ça. C'est à moi. Personne ne va venir, pas un vrai fou, là, je ne ferai pas ça, mais les gens qui appartenaient au Seigneur étaient à lui. Il y avait toute décision, tout pouvoir sur eux. Priorité absolue, maître absolu, c'est lui qui décidait ce qu'il voulait. C'est aussi employé pour un roi, et c'est aussi employé 600 fois dans la version des Septante, la version grecque de l'Ancien Testament, 600 fois pour parler de Dieu, Seigneur. Et quand on dit « notre Seigneur », c'est ça que ça dit, hein, le credo, « notre Seigneur », c'est « mon Seigneur ». Je ne peux pas chanter collectivement ici ce matin « Seigneur, Seigneur » et sortir et ne pas appliquer ça dans ma vie. Avant d'être notre Seigneur, il est mon Seigneur. Je lui appartiens. Je vais montrer. Un tatou. C'est le seul que j'ai. Inquiétez-vous pas, là, j'en aurai pas d'autres non plus. Mais ça ne veut pas dire que n'importe qui peut faire ça. C'est dans le cœur. C'est dans le cœur qu'on lui appartient. Dans notre tête, dans notre vie quotidienne qu'on manifeste, qu'on lui appartient, qu'on lui obéit. Le soir, quand il a été livré, le jeudi soir, les disciples, Pierre et Jean, ont dit, « Où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque? Où veux-tu que nous allions? » Il était prêt à aller n'importe où, ce qu'il dirait. S'il avait dit, « Descendant en Égypte, allez me préparer ça là », il aurait fait. Il fallait que ça se fasse dans la ville de Jérusalem, il savait, là, tu sais. Là. Mais « Où veux-tu que nous allions? » Il était, « Dis-nous ce que tu veux, on va le faire. » Et dans la prière, dans la méditation, dans la relation avec les frères et sœurs, le Seigneur nous dit où il veut que nous allions. Qu'est-ce qu'il veut que nous fassions dans nos vies à l'Église, comme service? Soyons à l'écoute. Et je termine avec la deuxième phrase de ce que d'aujourd'hui. Conçu par le Saint-Esprit, donc conçu par le Saint-Esprit, on s'entend qu'il n'est pas comme nous autres. Il n'y a personne ici qui peut dire ça. Conçu par le Saint-Esprit, né de la Vierge Marie. Donc, il est pareil comme nous autres. Hein? Né de la Vierge Marie. Il est né d'une femme. Mais es-tu pareil ou s'il n'est pas pareil? Les deux. Conçu par le Saint-Esprit, l'Évangile de Matthieu nous raconte comment ça s'est fait. L'Évangile de Luc aussi, que le Saint-Esprit est venu, le couvert de son ombre. Comment ça s'est fait? On n'a pas les détails, mais on sait qu'il était totalement différent de nous. Il était Dieu. Personne d'autre peut prétendre à ça. Et parce qu'il était Dieu, s'il avait été simplement un homme, il aurait pu vivre une vie parfaite et se sauver lui-même, mais il n'aurait pas pu nous sauver. Et en même temps, il est un vrai homme. Il a vécu ce qu'on a vécu. Il peut compatir avec nous dans nos épreuves. Et cette phrase-là, conçue par le Saint-Esprit, née de la Vierge Marie, vient solidifier deux erreurs doctrinales du premier siècle, qui disaient, le docétisme, qui disait que Jésus n'était pas vraiment un homme. Docé, ça veut dire paraître. Il a paru comme un homme, il n'était pas vraiment un homme. Mais même après sa résurrection, il a mangé. Il a eu tous les signes d'un homme. Et Jean va, dans ses écrits, dans ses évangiles, dans ses épîtres, va utiliser le mot « chair », hein? Énormément. « Chair », c'est pas la... C'est la chair, là, hein? C'est la peau, de quoi qu'on est fait, là, pour combattre cette erreur-là, pour dire « Non, non, c'était un homme comme vous et moi. » Et en même temps, il y avait l'autre erreur qui disait qu'il n'était pas vraiment Dieu. C'est un homme exceptionnel, c'est un envoyé de Dieu, c'est un prophète, mais il n'était pas vraiment Dieu. Ça, c'est l'arianisme du nom de l'auteur de l'hérésie. Et les gens qui récitaient le credo, conçus du Saint-Esprit, nés de la Vierge Marie, viennent affirmer qu'ils croient que Jésus-Christ était à la fois homme et Dieu. Et c'est ce qu'on croit, et c'est ce qu'on chante, et c'est ce qu'on professe aussi. Que non seulement il était homme, mais il était Dieu, et c'est un homme qui a donné sa vie sur la croix. Donc, je reviens au premier texte qu'on a lu dans Matthieu, et je vous repose la question. Et vous? Et là, j'espère que chacun... Des fois, on parle puis on dit « Je ne vise pas personne. » Mais là, je vous dirais « Je vise tout le monde. » Tout le monde. Et vous? Qui dites-vous que je suis? Est-ce que vous avez la certitude que Jésus-Christ est votre sauveur? Et si oui, est-ce que vous avez l'attitude qu'il est votre Seigneur? Je ne vous demande pas votre réponse. Vous la connaissez. Les deux, les réponses sont importantes. La première, je vous dirais, comme je l'ai dit tantôt, c'est la question la plus importante à laquelle vous n'aurez pas à répondre. Mais la deuxième, ça témoigne de notre affection pour le Fils, qu'il est notre Seigneur. Et il ne nous traite pas comme des esclaves. Il ne nous traite pas comme des esclaves. Vous savez, et je termine avec ça, là, c'est remarquable. Ça m'a frappé ce matin, le texte que tu as lu en introduction, que... le Seigneur se révèle à Marie de Magdala. Ce n'était pas la première à aller au tombeau. Pierre et Jean étaient allés en courant, les versets qui précèdent. Pierre et Jean, quand même, là, tu sais, c'est dans l'Épître aux Galates, c'est marqué, c'est des colonnes pour l'Église. Et je me serais attendu à ce que le Seigneur dise, « Hey, les gars, je suis là, c'est moi. » Ils n'ont rien vu, eux autres. Ils sont rentrés dans... Ils ont vu que le linge était plié, ils sont repartis. Ils n'ont pas vu d'ange, ils n'ont pas vu le Seigneur. Pas de son, pas de lumière. Mais à Marie, qui, elle, avait de la peine, non seulement elle a vu le Seigneur, elle a vu des anges. Moi, ça me ferait peur, je vous avoue, là, mais en tout cas. Comment elle a fait pour reconnaître ça des anges? Des anges, je ne sais pas. Est-ce qu'ils étaient lumineux? Est-ce qu'ils étaient, je ne sais pas. Mais le Seigneur se révèle à elle, à cette femme, et il prend soin de son cœur. il prend soin de sa peine. Et je ne doute pas que le restant des journées de cette femme sur la terre ont été dévouées à la personne du Seigneur. Et c'est exactement ce qu'on a vécu comme incroyant. Il s'est approché de nous et il nous a régénérés. Que nos journées, les années qui sont devant nous, servent à sa gloire. On va prier. Notre Dieu et Père, merci encore une fois pour le privilège qu'on a de vous appartenir, d'assister ici dans une église locale à chaque semaine, où on n'est pas encore, en tout cas, mis en danger. Peut-être ça va venir, on ne sait pas, mais on peut le faire librement. On peut annoncer la parole librement. Puissiez-vous nous aider à avoir l'intelligence de d'être consacré à votre service, d'avoir l'esprit attentif à ce que vous attendez de nous, aux opportunités que nous avons, et de servir et l'Église locale et d'annoncer l'Évangile pour que nous soyons des ambassadeurs. On veut, par notre vie, vous glorifier au travers des différentes circonstances qui sont devant nous et que vous permettez. C'est dans le nom précieux de votre Fils bien-aimé, le Seigneur Jésus, qu'on prie. Amen.